Bienvenue à tous. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le bureau du Sénat a finalement tranché ce matin. Il saisira bel et bien le parquet à l'encontre d'Alexandre Benalla et Vincent Crass, tous deux soupçonnés de faux témoignages lors de leurs auditions devant la commission d'enquête. Et puis la Chambre haute a également décidé de saisir la justice des cas de trois hauts responsables de l'Élysée.
Après que l'exécutif a décidé de mobiliser la mission antiterroriste Sentinelle pour les prochaines manifestations de Gilets jaunes, la polémique se poursuit sur l'utilisation de l'armée dans un conflit social.
Et ce matin, le ministre de l'Intérieur a souligné que ces militaires ne devront en aucun cas participer au maintien de l'ordre.
Dans votre journal également, la première ministre britannique Theresa May doit présenter aujourd'hui à Bruxelles sa demande d'un report de 3 mois du Brexit.
Et à 8 jours de l'échéance face à des dirigeants européens lassés des atermoiements de Londres et bien décidés à poser leurs conditions, le temps presse avec le risque plus que jamais redouté d'un départ brutal du Royaume-Uni de l'UE. Élitreuillage de rescapés bloqués dans des arbres et sur des toits, distribution de nourriture, construction de quand les secours s'organisent difficilement pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés du cyclone meurtrier qui a balayé l'Afrique australe. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Gilles Le Breton, chef de la délégation Rassemblement National au Parlement européen. Puis à 2h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Deux invités, l'anthropologue Nastasia Martin et l'écrivain traducteur italien Jean Talon seront avec nous pour explorer le monde, partir à la rencontre de cette altérité tant mise en avant par les travaux des ethnologues et des anthropologues à l'occasion d'un week-end qui se tient au Quai Branly à Paris sur le thème « L'ethnologie va vous surprendre ».
Merci et à tout à l'heure. C'est l'autre série dramatique de l'an 2 du quinquennat Macron, un feuilleton dans lequel, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes, chaque nouvel épisode semble faire appel au même thème que sont la crise des institutions d'un côté et la violence de l'autre. Hier, Alexandre Benalla a écopé de 2 nouvelles mises en examen. La première concerne son rôle présumé dans une interpellation musclée intervenue au Jardin des Plantes quelques heures avant les faits de violence survenus place de la Contrescarpe, toujours en marge du défilé parisien du 1er mai. Et puis, l'ex-collaborateur du chef de l'État est également ressorti du bureau des juges d'instruction hier avec une mise en examen pour port et détention non autorisée d'armes de catégorie B. L'affaire remonte au 28 avril 2017. À l'époque, Alexandre Benalla, membre du service d'ordre de la campagne d'Emmanuel Macron, s'était pris en photo avec une arme à la main pointée non loin du visage de la serveuse d'un restaurant de Poitiers, à quelques kilomètres de là où le candidat de l'Élysée venait de tenir un meeting. Le principal intéressé avait prétendu qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Sauf que depuis, de nouveaux éléments sont apparus dans l'enquête et notamment une note révélant qu'il avait effectué des achats dans une armurerie dans les jours précédant ce cliché. Enfin, ultime épisode donc ce matin, le Sénat s'est lui finalement prononcé pour le renvoi devant la justice du cas Benalla, ce qui n'est pas franchement une surprise, mais aussi de 3 autres hauts responsables de la présidence. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors il s'agit du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, du directeur de cabinet, Patrick Strauda, et du chef du groupe de sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne, des personnalités dont la proximité avec le président de la République confère évidemment une dimension également politique à cette décision des sénateurs. Stéphane.
Oui, pour Alexandre Benalla et Vincent Crass, il n'y avait pas de suspense. La commission d'enquête sénatoriale avait établi de façon évidente que les deux hommes avaient menti lors de leurs auditions alors qu'ils étaient sous serment, ce qui n'était contesté par aucun des 26 membres du bureau du Sénat. Ils sont donc tous deux renvoyés devant la justice pour faux témoignage. En revanche, il y avait débat sur le renvoi des 3 hommes de la présidence de la République proche d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, Patrick Strauda, directeur de cabinet, et Lionel Lavergne, chef de la sécurité. La commission du Sénat avait relevé des omissions, des incohérences, des contradictions, pointant dans son rapport final un doute sur une possible dissimulation de la réalité. Ce qui, d'un point de vue juridique, permettait de discuter sur l'éventuelle saisine de la justice. Elle ne paraissait pas nécessairement évidente. Mais ce sont surtout des considérations politiques qui ont déterminé le vote de chacun des sénateurs. On ne connaît pas encore le résultat précis du vote, qui a voté pour, qui a voté contre. Mais si la ligne dure l'a emporté, c'est que la gauche et la droite se sont alliées dans cette affaire. Pour les socialistes et les communistes, il n'y avait pas de discussion. Il fallait renvoyer tout le monde devant la justice. En revanche, à droite, c'était plus partagé. Certains soutenaient l'avis du président de la commission, Philippe Bas, et du président du groupe, les Républicains, Bruno Retailleau, selon qui il fallait que le Sénat aille jusqu'au bout, dans une opposition frontale à Emmanuel Macron. D'autres, en revanche, étaient plutôt de l'avis des sénateurs centristes, estimant qu'il ne fallait pas risquer de braquer et de fâcher le chef de l'État dans le cadre des discussions en cours sur la réforme des institutions et sur la réduction du nombre de parlementaires. D'autres considérations sont également entrées en ligne de compte, notamment les élections municipales, parce qu'on envisage déjà d'éventuelles alliances pour 2020. Les centristes, notamment, se posent une question. Pour avoir des élus, vaut-il mieux s'allier avec En Marche ou avec les Républicains? Peut-être convient-il de ne pas insulter l'avenir. La question se pose parce que la plupart des grands électeurs qui élisent les sénateurs sont des élus municipaux. Il y avait donc des jeux politiques un peu troubles derrière ce vote sur l'affaire Benalla ce matin au Sénat. Et c'est donc la ligne dure qui l'a emporté, avec à la manœuvre la droite, majoritaire au Palais du Luxembourg, qui a décidé de se placer dans une franche opposition à l'exécutif.
Merci Stéphane Robert. Alors depuis quelques jours, il se trouve que cette affaire Benalla, décidément tentaculaire, déborde quelque peu sur le grand ménage à la tête de la puissante préfecture de police. Et pourquoi ? Parce que plusieurs de ceux qui ont été récemment limogés se sont retrouvés par le passé sous le feu des projecteurs. C'est le cas notamment du directeur de l'ordre public et de la circulation à Paris, Alain Gibelin, renvoyé vendredi dernier, qui lors de son audition par la commission d'enquête de l'Assemblée avait pointé la normalité du fonctionnement du service de sécurité de l'Élysée. Et puis on pourrait tout aussi bien citer le désormais ex-préfet de Paris, Michel Delpuech, dont certains dans la majorité ne lui ont jamais pardonné d'avoir rejeté sur le gouvernement la responsabilité de la présence sur le terrain de l'encombrant chargé de conseil de l'Élysée. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que son successeur, justement Didier Lallement, a été installé officiellement dans ses fonctions, avec pour priorité de mettre en œuvre la doctrine de fermeté renforcée de maintien de l'ordre présentée lundi dernier par le Premier ministre. Et s'agissant des mesures proposées donc par l'exécutif pour éviter que ne se reproduisent samedi prochain les violences du week-end dernier, hier le porte-parole du gouvernement a annoncé une mobilisation renforcée des militaires de l'opération antiterroriste Sentinelle dans le cadre du dispositif de maintien de l'ordre. Alors cette annonce a aussitôt suscité des critiques dans les rangs de l'opposition, où l'on s'inquiète de l'utilisation de l'armée lors d'un conflit social. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
Au-delà du symbole, l'annonce pose évidemment des questions techniques. À quoi serviront les militaires? Selon le gouvernement, il n'est évidemment pas question de leur demander de participer directement aux opérations de police. L'objectif, Mathieu, serait de dégager les effectifs de police mobilisés depuis le début de la crise des Gilets jaunes.
Rappelons Thomas, avant toute autre chose, ce qui fonde la mission des militaires. Ils agissent sous réquisition de l'autorité civile dans le cadre juridique de la légitime défense, élargie à la protection des biens et des personnes, selon le principe de la proportionnalité. Le général à la retraite, Vincent Desportes, qui avait émis des réserves lors de l'activation de la mission Sentinelle en 2015, rappelle que les soldats ne sont ni formés, ni entraînés, ni équipés pour sécuriser les points fixes et statiques.
Si par malheur les casseurs venaient à rentrer en contact direct avec les militaires, ceux-ci n'auraient que deux options. En gros, soit utiliser leurs poings et ce serait inefficace, soit utiliser leurs armes, et leurs armes sont des armes à tuer. Donc on voit bien que dans les deux cas, la solution est mauvaise. Et c'est pour ça que cette décision, elle est une prise de risque politique absolument considérable, avec deux options, soit l'armée est décrédibilisée, ou bien on transforme ces émeutes en guérilla, avec le risque presque certain du sang versé.
Alors la mission Sentinelle, Thomas, a certes évolué, mais ses inflexions masquent mal des fragilités structurelles et bien des inerties. Vincent Desportes.
C'est un aveu de faiblesse du gouvernement. Je pense que c'est bien aux forces de deuxième catégorie de prendre ça à leur compte, parce que utiliser les armées dans cette mission régalienne, utiliser l'ultima ratio, c'est bien l'ultima ratio. On est au bout très sûrement de l'adaptation de nos forces de sécurité à la montée de la violence. Elles ne sont plus capables de dissuader. Et quand elles vont agir, elles ne sont plus capables d'agir.
Dans les rangs de hauts gradés à la retraite, des voix s'élèvent et réclament une révision profonde de la doctrine d'intervention des forces de deuxième catégorie et surtout et sans tarder, des embauches au sein de la police nationale.
Merci Mathieu Laurent. Dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis d'un président Emmanuel Macron, souvent ramené par ses détracteurs à son statut d'ancien banquier, en réalité d'ex-associé gérant de la banque d'affaires Rothschild, une ordonnance en cours de rédaction par Bercy pourrait bien bien faire l'objet d'une nouvelle polémique. L'idée serait de plafonner les indemnités auxquelles peuvent prétendre les consommateurs qui ont été mal informés ou trompés par leur banque sur le coût global de leur emprunt immobilier. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors rien n'est encore arbitré, mais les associations de consommateurs ont choisi d'ores et déjà de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard.
Oui, alors celles et ceux qui ont fait un prêt immobilier connaissent forcément ce TEG ou taux effectif global. Les banques sont obligées de le communiquer car cela permet notamment de comparer les offres des banques entre elles. Or, il se trouve que dans un certain nombre de cas, ce taux effectif global est trompeur. Soit parce que la banque a pris pour base une année à 360 jours et pas 364 ou 365, soit parce que les assurances et autres frais d'actes de notaire, etc. n'ont pas été bien intégrés. Alors, il est absolument impossible de savoir dans combien de cas le TEG annoncé par la banque n'est pas correct, car il faut se faire épauler par un expert comptable et donc avoir l'idée d'aller en justice pour le vérifier. On ne sait pas non plus combien il y a de contentieux en cours sur des TEG potentiellement erronés, mais assez en tout cas pour que Bercy se saisisse du sujet. Une loi permettant de légiférer par ordonnance a donc été votée l'été dernier. Il ne manque plus que l'arbitrage de Bercy. Alors pourquoi légiférer alors qu'il existe déjà des lois prévoyant de condamner les banques à verser des indemnités en cas de faux calcul de ce taux effectif global? Eh bien parce que pour le moment, quand la faute est constatée, les indemnités consenties par les juges à l'emprunteur trompé sont soit exorbitantes, soit minimes, explique Bercy. Mettre des seuils d'indemnités, des plafonds, ce serait donc l'objectif de cette ordonnance. Il y a justement cet après-midi une réunion de consultation sur ce sujet et même si l'arbitrage n'est pas encore décidé, ce qui inquiète les associations de consommateurs, ce n'est pas le seuil ou le plafond qui sera choisi, mais l'idée même de plafonner des indemnités en cas de faute avérée et de permettre ainsi aux banques d'anticiper le coût du non-respect de leurs obligations légales.
Merci Marie Viennot. À 8 jours maintenant de la date fatidique fixée pour le Brexit, le Conseil européen va une nouvelle fois tenter aujourd'hui d'éviter une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais avec quelle chance d'aboutir? Hier, Theresa May a officiellement demandé à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit jusqu'au 30 juin prochain. Reste qu'accepter ou non ce report dépend en réalité d'une décision à l'unanimité des 27. Et voilà pourquoi le risque perdure d'une sortie accidentelle. A priori, le scénario le plus probable, ainsi que l'a encore confirmé ce matin Angela Merkel, serait d'accorder une extension courte de la période préalable au divorce qui n'aille pas au-delà du 23 mai, date du début des élections européennes. Et puis surtout, si ce délai venait à être accordé, il ne ferait que retarder un peu plus le défi qui attend Theresa May, laquelle, pour renverser la donne, a toujours besoin de convaincre 75 parlementaires de voter son accord négocié avec Bruxelles. Or, alors même que la Première ministre a plus que jamais besoin du soutien des parlementaires britanniques, eh bien, la rupture semble d'ores et déjà consommée. Les précisions à Londres de notre correspondant Antoine Gignot.
Pour la poignée de députés de gauche qui hésitaient à soutenir la Première ministre et à valider son plan pour le Brexit, c'est rédhibitoire, la rupture est consommée. La travailliste Lisa Nandy parle d'un discours dangereux, les députés reçoivent déjà quotidiennement des messages de haine, des menaces de mort, reprend Wes Streeting, les accuser de bloquer le Brexit, c'est totalement irresponsable. À droite, c'est encore pire, plusieurs élus réclament la tête de Theresa May, les observateurs qui ont assisté hier soir à la réunion du Parti conservateur rapporte des altercations et des menaces. L'un des parlementaires présents compare la Première ministre à Alice au Pays des Merveilles, comme, dit-il, lorsque dans le livre, la petite fille boit une potion qui la fait rapetisser, on la voyait rétrécir à vue d'œil. Les eurosceptiques ironisent. Lorsque vous essayez de convaincre les députés de vous soutenir, le minimum, c'est d'éviter de les insulter, explique Marc François. Et un ancien ministre conclut, Theresa May est dans un cul-de-sac de plus en plus étroit.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a écopé hier d'une mesure de suspension du Parti populaire européen. Sa formation, le Fidesz, n'est donc pas exclue, mais sera privée temporairement du droit de vote et devra cesser le dénigrement systématique de l'UE. C'est un miracle, cela aurait pu être un carnage. Ce matin, toute la presse italienne pousse un soupir de soulagement après la prise d'otage hier d'une cinquantaine de collégiens. Le conducteur de leur autocar scolaire les a ligotés, répandu du carburant et menacé de mettre le feu. Les enfants et leurs accompagnateurs ont finalement réussi à sortir à temps. Le preneur d'otages, un Italien d'origine sénégalaise âgé de 47 ans, voulait par son acte venger les morts de migrants en mer. Il pourrait aujourd'hui se voir révoquer sa citoyenneté italienne. L'hypothèse est en tous les cas étudiée par les services du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. C'est une correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
Le conducteur de l'autocar est bien interpellé pour prise d'otage, massacre et incendie avec la circonstance aggravante de terrorisme. Mais dans son profil, rien ne le rattache à l'islamisme radical. D'après son entourage, de la ville de Crema, près de Milan, il se disait non-croyant et ne priait pas. Par son geste, il aurait voulu venger les migrants qui meurent en Méditerranée. C'est ce qui ressort d'une vidéo retrouvée dans un ordinateur chez lui. C'est ce qu'il a affirmé également aux 51 collégiens qu'il a pris en otage hier. Une action préméditée, il était équipé de deux bidons rempli d'essence avant de prendre le volant de l'autocar. Les médias italiens parlent d'un homme tranquille, apprécié à son travail, fragilisé après un divorce compliqué. 47 ans, sénégalais d'origine, né en France, il a obtenu la citoyenneté italienne il y a 15 ans. Le ministère de l'Intérieur fait savoir qu'il étudie la possibilité de révoquer cette citoyenneté, comme le permet désormais le décret sécurité et immigration de Matteo Salvini. Le ministre et leader de la Ligue remercie au lendemain de la prise d'otage les forces de l'ordre et les jeunes qui courageusement ont lancé l'alerte avec leur téléphone portable. Des héros, commente Matteo Salvini, qui ont permis d'éviter une tragédie.
Au Mozambique, les opérations de secours se poursuivent après le passage meurtrier du cyclone Idai. L'ouragan a notamment dévasté Beira, la deuxième ville du pays, détruite à 90%. Mais ce sont surtout des inondations massives causées par les fortes pluies apportées par le cyclone qui ont transformé le désastre en catastrophe. Des zones entières ont été submergées. Des milliers de personnes attendent toujours d'être secourues. Le bilan provisoire de la catastrophe fait état de 217 morts, mais pourrait encore s'aggraver. Notre envoyé spécial, Adrien Barbier, a interviewé le pilote d'un hélicoptère de secours. Il est l'un des premiers à s'être aperçu de l'ampleur des inondations, 3 jours après le passage du cyclone et alors que toutes les communications étaient coupées.
À droite, l'océan Indien. À gauche, un nouvel océan qui est apparu ces derniers jours au Mozambique. Depuis l'hélicoptère de Joël Barreci, la vue est effroyable et époustouflante en même temps. Dimanche dernier, ce pilote suisse effectuait un vol de reconnaissance lorsqu'il s'est aperçu qu'une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés était complètement sous l'eau. Et au milieu, une ville, Boussy.
On a vu des milliers de gens sur les toits, dans les étages, partout où ils pouvaient échapper à l'eau. Et je crois que ceux qui ne vivaient pas dans le centre-ville ont eu très peu de chances d'y échapper.
Cette découverte a pris de court les humanitaires. Il a fallu improviser et concentrer tous les moyens sur le sauvetage des sinistrés.
On a commencé par leur lancer des biscuits énergétiques pour leur permettre de tenir jusqu'à ce qu'un bateau ou un hélicoptère plus gros puisse les secourir.
Le ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correia, a annoncé ce matin que 3000 familles sur environ 12 000 ont été évacuées pour l'instant. Une bonne nouvelle, le niveau de l'eau tend à baisser depuis hier, ce qui facilite grandement le travail des secouristes.
Un reportage au Mozambique signé Adrien Barbier. Puis j'ajoute qu'au Zimbabwe voisin, 200 000 personnes seraient actuellement touchées par les inondations et le cyclone. L'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Gilles Le Breton, chef de la délégation Rassemblement National au Parlement européen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question monsieur Le Breton. Depuis le début de l'année, votre parti, mais on pourrait également citer le parti d'extrême droite suédois, les démocrates de Suède, ne réclament plus une sortie de l'UE, qui pendant longtemps aura pourtant constitué un pilier de votre programme. On rappellera que Marine Le Pen, lors de la dernière présidentielle, voulait même soumettre au référendum la sortie de la France de l'UE. Les temps changent, on imagine que les déboires britanniques notamment sont passés par là. Pour autant, êtes-vous devenu pro-européen ?
Nous avons toujours été pro-européens, mais il ne faut pas confondre évidemment l'Union européenne avec l'Europe des nations dont nous prenons la création. Alors jusqu'à présent, nous avions effectivement une stratégie un peu dure qui consistait à proposer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Nous avons acté que cette solution ne convenait pas manifestement à l'électorat et donc nous avons décidé de nous y prendre autrement, c'est-à-dire d'investir l'Union européenne de l'intérieur pour la transformer et l'amener ainsi, très rapidement, à ce que nous appelons une Europe des nations.
Vous dites que cela ne convenait pas à l'électorat, ça veut dire que le Brexit n'a rien à voir là-dedans ?
Non, en toute objectivité, ça n'a rien eu à voir dans notre décision. Nous nous occupons du peuple français avant tout et nous avons compris que le programme que nous avions proposé lui était apparu trop brutale, donc on en a pris acte et nous n'avons pas changé notre objectif, c'est toujours d'arriver à l'Europe des nations, mais on va s'y prendre autrement.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Alors vous êtes 11e hein, sur la liste du Rassemblement National pour l'élection du mois de mai prochain, vous vous présentez à votre deuxième mandat et c'est vrai, vous adorez l'Europe, Gilles Le Breton, vous le dites vous-même, en tant que juriste, vous êtes comme un poisson dans l'eau à la commission jury, la commission des affaires juridiques, vous étiez rapporteur fictif de la directive sur les lanceurs d'alerte, vous avez même participé au texte de compromis en trilogue, finalement. N'a-t-on pas besoin de plus d'Europe sur ce sujet-là en particulier ?
Alors, l'Europe des nations que nous prenons implique justement une certaine forme de coopération. Hein, et typiquement, l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de la protection des lanceurs d'alerte. On voit bien que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de scandales qui ont été révélés grâce à des lanceurs d'alerte. Je pense par exemple au Panama Papers, à LuxLeaks, qui a impliqué d'ailleurs Jean-Claude Juncker, hein, personnellement, le président de la Commission de Bruxelles. Et donc, ce sont des gens qui nous rendent d'éminents services, qui informent les démocraties de ce qui se passe. Il faut donc les protéger. Et j'ai participé en effet comme rapporteur en second à l'élaboration de ce texte qui protégera au niveau européen les lanceurs d'alerte. Et pour vous donner juste un exemple, j'ai suggéré de bien veiller à protéger certains secrets comme le secret médical, le secret de la défense nationale ou encore le secret des relations entre les avocats et leurs clients. Et ces suggestions ont été retenues.
Jordan Bardella, votre tête de liste aux européennes, il revient d'une tournée dans les DOM Tom. Juste à titre d'exemple, la Guadeloupe, elle reçoit 1 milliard d'euros de fonds structurels européens pour l'aménagement du territoire, l'agriculture. Comment ils vont faire les Guadeloupéens avec cette Europe à minima, cette Europe des nations que vous prenez, nations indépendantes, pour permettre à la France de retrouver sa souveraineté? Je cite Marine Le Pen. Comment on fait avec tous ces fonds structurels? La France, elle continue à participer?
Alors, bon, d'une part, on va pas passer d'un seul coup de l'Union européenne à l'Europe des nations. On va s'y prendre progressivement. Et puis, d'autre part, nous, ce que nous reprochons à cette Union européenne, et c'est l'un de nos reproches les plus vifs, c'est de céder à un libre-échange totalement débridé. Et nous voulons protéger justement les productions de nos territoires d'outre-mer, toutes les productions de bananes, les productions de canne à sucre, etc. Et il faut pour cela résister à la tentation de passer des traités de libre-échange sans aucune précaution avec le monde entier. Et donc on est tout à fait cohérent avec nous-mêmes.
Pourquoi c'est si important pour votre parti, les DOM-TOM? Sur votre site internet, on a 12 pages de PDF sur votre programme européen pour les DOM-TOM. L'Union européenne, elle est d'abord dans les Caraïbes et dans l'océan Indien?
Alors, l'Union européenne, d'une certaine façon, est liée, puisqu'on a des territoires d'outre-mer auxquels nous donnons. Mais non, symboliquement, il était très, très important pour nous de les mettre en avant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est pour montrer à nos compatriotes d'outre-mer que nous tenons à les défendre. Et je crois qu'on ne le dit pas toujours assez souvent, donc là, nous tenons à l'affirmer.
À quel sujet ?
Eh bien, on tient à défendre leurs intérêts économiques, notamment, et on tient à les rassurer sur le fait qu'ils font évidemment partie intégrante de la communauté nationale. Et en cela, nous voulons les défendre. Et d'autre part, il est important de mettre en avant l'outre-mer parce que la France a la deuxième zone maritime du monde par son étendue. C'est une richesse formidable et nous tenions à le réaffirmer parce que nous sommes un parti attaché à la grandeur de la France et ça passe aussi par cette affirmation-là.
Concernant la polémique qui touche votre parti en ce moment, vous assumez-vous le concept de grand remplacement, cette théorie qui circule dans les milieux d'extrême droite qui a pu être partagée par Le Ciel, un mouvement auquel vous avez appartenu et qui dit que les Français vont être évincés par des peuples non européen. Vous l'assumez, vous, cette théorie ?
Bien sûr que non. J'ai quitté Le Ciel, d'ailleurs, parce que ce mouvement devenait trop identitaire. Quand j'ai participé à sa fondation, le « i » de Ciel signifiait « indépendance ». Et après mon départ, le « i » de Ciel a signifié « identité ». Vous voyez la différence.
Quand Jordan Bardella dit sur BFM que c'est juste un slogan intello, c'est pas un peu, même très léger, surtout quand on sait que le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande s'est réclamé de cette théorie du grand remplacement. C'est pas un péché de jeunesse peut-être pour Jordan Bardella?
Alors, ne comptez pas sur moi pour critiquer Jordan Bardella, qui est un jeune homme de très grand avenir et de très grand talent. Alors, plus sérieusement sur le grand remplacement, moi je n'ai jamais adhéré à cette théorie. J'ai d'ailleurs eu un débat avec Renaud Camus il y a plusieurs années sur ce point et je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je trouvais que c'était une vision trop complotiste et trop simpliste en réalité.
Ça sera possible d'arriver en tête en mai prochain, de rester le premier parti de France à cette élection, sachant que voilà, Nicolas Dupont-Aignan est toujours à 6-8% dans les sondages. C'est pas un peu une épine dans le pied du Rassemblement National ?
Non, pas du tout. Nous étions déjà arrivés en tête il y a 5 ans, alors que Dupont-Aignan avait ses propres listes, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que nous allons réitérer l'exploit, et j'espère même avoir un score encore supérieur.
Merci Gilles Le Breton, chef, je le rappelle, de la délégation Rassemblement National au Parlement européen d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide de météo. Un ciel encore chargé cet après-midi sur la Bretagne, partout ailleurs du soleil. Les températures, elles seront généralement comprises entre 13 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Anne-Laure Chouin pour le prochain journal de la rédaction.